Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'écoute de Radio de la Paix. Dans ce 7 heures, l'inspection générale d'État a présenté hier son rapport annuel d'activité 2022 où il est fait mention de 225 missions réalisées par les organes de contrôle administratif. Ce rapport a été remis au vice-président de la République, Temoko Mellier, qui représentait le chef de l'État. Et parlons d'accompagnement des PME. 20% des 8000 petites et moyennes entreprises bénéficiaires d'accompagnement en 2024 obtiendront des financements, a annoncé le directeur du guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises, Yaya Ouattara, que nous aurons dans cette édition. Et puis dans l'actualité sur le continent, 10 jours avant la présidentielle au Sénégal, les deux opposants, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye, sont libres. La Jean-Mélène Bitti est chargée aujourd'hui de la revue des titres, nous le retrouverons. Et puis, invité de la rédaction de ce jour, Blain Alexis Cross parlera des nouvelles réformes instituées par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Il sera avec notre correspondant dans le Kabadougou, Bakary Touré Labas. Après son séminaire national de réflexion sur le métier de contrôle administratif début de ce mois, l'inspection générale d'État a procédé hier jeudi à la remise du rapport des activités réalisées au cours de l'année 2022 au vice-président Temoko Mellier-Koné qui représentait le chef de l'État Alassane Ouattara. Au total, 225 missions ont été réalisées par les organes de contrôle administratif. Et remettant ce rapport, l'inspecteur général d'État Awa Ndoli Théophile a révélé toutefois deux constats, notamment la multiplicité des audits commandés et le problème du suivi des recommandations. Notons que ce rapport a pour but de rendre compte des missions d'inspection, de contrôle et d'audit interne effectuées dans les services publics et parapublics. Nous vous proposerons un reportage là-dessus dans nos prochaines éditions. Et puis au-delà de l'adoption en Conseil des ministres mercredi dernier d'une communication relative à une opération spéciale de déguerpissement et de relogement des populations vivant dans les zones à risque, plusieurs autres mesures ont été prises par le gouvernement ivoirien, notamment celles liées à la modernisation des registres d'état civil et à la répression des auteurs des disparitions forcées. Le compte-rendu est signé Junior Cardin.
Le Conseil a adopté un projet de loi modifiant la loi du 19 novembre 2018 relative à l'état civil. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement.
Ces modifications portent sur les modalités de la rectification des erreurs et omissions affectant les actes de l'état civil, l'harmonisation de la procédure de reconstitution des volumes de registres en cas de destruction, de détérioration ou de perte, ainsi que le réajustement de la procédure de régularisation des volumes de registres d'état civil irrégulièrement ouverts et des actes d'état civil irrégulièrement dressés. Il prévoit en outre un dépositaire central de façon à assurer la délivrance systématique des copies électroniques des actes de l'état civil.
Par ailleurs, le Conseil a adopté un décret portant ratification de la Convention internationale pour la protection des personnes contre les disparitions forcées.
La ratification de cette convention permettra à notre pays, en synergie avec les autres États signataires, de prévenir et de réprimer durablement l'enlèvement, la détention ou toute forme de privation de liberté extrajudiciaire de personnes physiques, quels que soient les auteurs, et de garantir le droit des victimes à la justice et à la réparation.
Enfin, afin de protéger les travailleurs, le Conseil a adopté un décret portant modalités d'application des dispositions relatives au licenciement collectif pour motifs économiques.
Parlons de sécurité alimentaire, en 2006, la FAO a institué un cadre de programmation pays conçu pour définir les axes d'intervention de l'organisation dans chaque pays membre sur les défis internes et externes du secteur agro-silvopastoral et halieutique. Le fruit des discussions entre les partenaires techniques et financiers a été présenté mercredi dernier à Abidjan. Des précisions avec Attaher Maïga, représentant résident de la FAO en Côte d'Ivoire.
C'est un document de programmation de la FAO qui définit un peu les priorités sur lesquelles la FAO va travailler en Côte d'Ivoire au cours des deux prochaines années. Ça s'étend sur 2023 jusqu'à 2025. Et donc, en fonction des priorités nationales qui sont définies dans les documents de programmation nationaux de la Côte d'Ivoire, notamment le plan national de développement, la FAO essaie de voir en fonction de ses avantages comparatifs, de son expertise et de son expérience, quels sont les domaines prioritaires qu'il faut retenir durant cette période-là de 2023 à 2025. Donc nous sommes là pour présenter le document qui a été préparé après des consultations avec les différents ministères, avec les différentes parties prenantes, et justement pour présenter ce document-là et recueillir tout autre commentaire qui existerait avant la validation de ce document. Donc les priorités globalement tournent autour de l'augmentation de la production et de la productivité, tout ce qui touche aux aspects relatifs au changement climatique et au développement des systèmes alimentaires, la nutrition et aussi du cadre de vie en général. On touche à tous ces domaines-là en vue vraiment d'assurer la sécurité alimentaire et je dirais même au-delà, puisqu'en Côte d'Ivoire, les autorités sont déterminées pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire.
À l'instant, Ataer Maïga, représentant résident de la FAO en Côte d'Ivoire. Parlant d'agriculture, précisément café-cacao, rien ne va plus entre le conseil café-cacao et les producteurs. Le surpaiement du cacao sur le marché international les divise. Selon Kone Moussa, président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, les exportateurs ont acheté le kilogramme de cacao à 1600 contre 1000 francs CFA pendant le mois de février dernier, avant d'être interpellé par le conseil Café Cacao. Pour lui, le directeur général du conseil Café Cacao, Yves Ibrahima, est contre les intérêts des producteurs. Nous écoutons ses explications.
Le directeur du conseil Café Cacao a fait un dernier communiqué. Il est interdit à toutes les multinationales d'ajouter 5 francs sur 1000 francs qu'il a annoncé pour les planteurs, pour pas qu'un exportateur va ajouter 5 francs pour un planteur. Et si tu as ajouté 5 francs sur le prix de cacao du planteur, le conseil va te sanctionner sur une amende de 10% de la valeur de la marchandise. Cela fait aujourd'hui que les exportateurs ont appelé les coopératives pour dire que vraiment eux-mêmes voient que le cacao est acheté sur le marché mondial plus de 4 millions la tonne. C'est qu'ils gagnent. Il voulait donner un peu aux producteurs, ben voilà, le conseil ne voulait pas qu'ils partagent quelque chose avec quelqu'un. Donc ils sont désolés, ils ne savent pas quoi faire. On a déjà déposé préavis de grève. Si les exportateurs arrivent à payer le cacao à 1600, cela sous-entend que le gouvernement peut augmenter le prix des producteurs. Trop, c'est trop. Nous n'allons pas accepter ça.
À l'instant, Kone Moussa, président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire. Le guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises annonce son programme pour l'année 2024. 20% des 8000 PME bénéficiaires d'accompagnement en 2024 obtiendront des financements. Information donnée par Yaya Ouattara, directeur du guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises, lors du rendez-vous hebdomadaire du CICG, le centre d'information et de communication gouvernementale, dans son rendez-vous le mardi dernier.
En fait, le GUD PME a pour mission de soutenir tout entrepreneur, tout porteur de projet, tout le long de leur cycle de vie, en leur apportant un ensemble de solutions d'accompagnement et de financement, de sorte à ce qu'elles deviennent compétitives, je parle des PME, au niveau national, régional et international. Nous avons entre autres pour objectif de décentraliser la promotion de l'entrepreneuriat. Il est important qu'on arrive à développer nos régions pour permettre à toute personne qui a une idée d'entreprendre de pouvoir se développer grâce à notre appui. Nous serons présents physiquement, certes, mais digitalement aussi. Le deuxième objectif, c'est de compléter et puis à dérisquer l'offre de financement existante. Aujourd'hui, beaucoup de PME ne sont pas prises en considération parce que les solutions qui sont disponibles ne sont pas adaptées. Nous allons travailler avec le secteur privé et surtout le secteur financier pour développer des solutions qui sont adaptées aux PME, surtout dans les secteurs qui sont dits risqués par les financiers. Il s'agit par exemple de l'agriculture, il s'agit de tout ce qui est industrie créative et culturelle, pour certaines raisons en fait sont considérées comme risquées.
Yaya Ouattara, directeur du guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises, dans des propos recueillis par Mata Touré. Éducation nationale, les élèves des écoles primaires publiques de la sous-préfecture de Blapleu, dans le département de Biankouma, viennent de recevoir un important don en vivres des mains d'un fils de la région. Occasion pour la coordonnatrice régionale des cantines scolaires de Mans, Yo Célestine, d'exhorter les fils et cadres de la région à s'impliquer davantage dans le programme intégré de la pérennisation des cantines scolaires dans le département. Les échos avec notre correspondant sur place, Stéphane Adams.
La famille éducative des écoles primaires publiques de la sous-préfecture de Blapleu dans le département de Biankouma vient de bénéficier d'un important don en vivres, des explications avec la coordinatrice régionale des cantines scolaires à la Drena de Mans, Dame Yo Célestine, épouse Kwao.
Nous sommes en train de faire le PIPCS, c'est le programme intégré de pérennisation des cantines scolaires. Cette année, par exemple, le gouvernement n'a donné que 26 jours de vivres aux cantines. Donc, 26 jours, moins 120 jours de fonctionnement de l'école, c'est la communauté qui doit vraiment fournir le reste.
C'est en cela que l'action dans ce domaine des élus et cadres est salutaire. Joseph Badia, donateur, fils de la région.
D'après ce que la directrice régionale vient de dire, l'État intervient pour 26 jours. Et le reste des jours, ce sont la population, les cadres qui doivent agir. Et c'est pour cela que j'ai offert une tonne de riz pour que nous avancions un peu. Aller à l'école, si tu ne manges pas assez bien, c'est difficile.
Un geste salué par la première responsable des cantines scolaires de la région du Tonkpi, Dame Yo Célestine, épouse Kwao.
L'enfant, c'est l'investissement le plus sûr. Tu dépenses sur lui aujourd'hui, mais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est lui qui va s'occuper de toi. Particulièrement au donateur, je lui dis un grand merci. Et vraiment, je voudrais que tous les cadres de Blapleu et partant de là de tout l'Ouest puissent vraiment suivre l'exemple du donateur.
Rappelons que le gouvernement poursuit l'approvisionnement des cantines scolaires existantes dans les écoles réparties dans cette localité. Stéphane Adams, de retour de Blapleu, Radio de la Paix.
Dans l'actualité sur le continent, 10 jours avant la présidentielle au Sénégal, les deux opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye sont libres. Ils ont quitté la prison de Cap Manuel à bord d'un véhicule aux vitres teintées peu avant minuit hier jeudi. Une libération qui a transformé la capitale Dakar en une gigantesque fête. Bassirou Diomaye Faye, âgé de 44 ans, avait été arrêté pour rappel en avril 2023 pour outrage à magistrat après un post sur le réseau social Facebook. Il a passé près d'un an en prison et Ousmane Sonko, lui, avait été arrêté fin juillet après des accusations d'appel à l'insurrection, entre autres. Ils ont été donc libérés hier jeudi suite à l'adoption par les députés sénégalais de la loi d'amnistie controversée sur les crimes commis pendant les manifestations qui ont eu lieu entre février 2021 et 2024. De retour dans le studio de Radio de la Paix pour retrouver Jean-Mylène Bitti qui se charge aujourd'hui de parcourir pour vous les unes de vos quotidiens. Bonjour Jean-Mylène.
Bonjour Linda Balier, bonjour à tous. Coupure générale de la connexion Internet en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays de la sous-région. Que disent les journaux de ce jour sur cette affaire? Sur cette coupure, le quotidien Le Temps, lui, revient sur ce qui a tout provoqué. Là où Fraternité Matin met à sa une, Internet coupé, les causes de l'enfer d'un blackout. L'Expression de son côté lui annonce la mise sur pied d'une cellule de crise par le ministre Konaté Khalil suite à la perturbation du réseau Internet hier. L'Avenir à son niveau est revenu sur comment les populations ont vécu ce blackout digital. Il est suivi par Le Matin qui titre « Coupure générale d'Internet en Côte d'Ivoire, banque, transport, commerce, hôpitaux, administration, tout était paralysé hier ». Restons toujours dans le domaine de la télécommunication avec ce projet de loi sur l'accès des zones rurales à la connectivité. Et sur ce sujet, c'est Soir Info qui affiche à sa une que le ministre Konaté Khalil convainc les députés. Il est suivi par Le Patriote qui fait savoir à sa une Assemblée nationale à connectivité. Khalil Konaté fait adopter un projet de loi pour renforcer la couverture nationale. Et puis les déguerpissements entamés par le district d'Abidjan dans certains quartiers précaires et zones à risque est inscrit au menu de notre réunion. Vu des titres de ce matin. Sur le sujet, l'intelligent d'Abidjan part à sa une de ce matin. Pourquoi le dégarpissement prévu le 11 mars 2024 dernier n'a pas eu lieu? Soutien aux populations dégarpies du district d'Abidjan pour le sursaut, ces mesures seront difficiles à appliquer. La nouvelle alliance, lui, de son côté, est très amère avec le gouvernement suite aux mesures prises, car, selon ce journal, le gouvernement joue aux médecins après la mort. Le temps voit ces mesures prises par le gouvernement ivoirien comme les retombées de l'escale de Laurent Gbagbo à Jesco. Afinguessan, président du FPI, lui tacle Cissé Bakongo et dit attendre des sanctions, affiche l'Inter à sa une. Contrairement aux autres apparitions, le patriote voit en ces batteries de mesures fortes en faveur de Degarpi le visage humain d'un gouvernement responsable. La candidature annoncée de Laurent Gbagbo fait toujours la une de certains journaux en Côte d'Ivoire sur ce sujet. Présidentiel 2025, volonté de retour de pouvoir au pouvoir. Pourquoi les chances de Laurent Gbagbo sont quasi inexistantes, fait savoir le journal L'Expression. On termine cette revue de titres avec ce fait divers rapporté par Soir Info dans la ville de Diglo, dans l'ouest du pays, qui indique à sa une. En pleine audience, un détenu tente de s'évader. Le substitut du procureur le maîtrise. Voilà, Lina Balé, ce qui fait la une de vos journaux de ce jour. À vos choses à journaux et bonne lecture.
Merci à vous, Jean-Mélène Bitti, pour cette revue des titres. Je rappelle que vous serez dans l'édition de 8 heures pour le même exercice. Invité de la rédaction, Blain Alexis Cross parle des nouvelles réformes instituées par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, à savoir la formation continue, la prise en charge médicale de tous les fonctionnaires, les congés parentaux et bien d'autres sujets. Il répond aux questions de notre correspondant dans le Kabadougou, Bakary Touré-Labas.
Monsieur le directeur régional, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Que vise cette formation à l'intention des chefs de service exerçant dans la région du Kabadougou?
Cette formation, c'est pour permettre aux directeurs et chefs de service d'être au fait de la nouvelle loi sur le statut général de la fonction publique. Les innovations qui ont été apportées dans cette loi et pourquoi cette loi, après 31 ans, pourquoi cette loi est en train d'être mise en œuvre. Donc c'est dans ce sens que nous disons merci à madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, qui nous permet de nous donner des outils de travail nécessaires.
Que dit la nouvelle loi concernant le fonctionnaire?
Mais la nouvelle loi, c'est pour le bien-être du fonctionnaire. On a vu qu'il y a 30 ans, il y a eu des insuffisances dans l'ancienne loi. Donc la nouvelle loi vient corriger un tant soit peu ces insuffisances-là pour le bien-être, pour le bonheur des fonctionnaires.
Quelle est la substance relative à la présente réforme arrêtée par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration?
Les nouvelles réformes concernent essentiellement les congés parentaux. Désormais, tout fonctionnaire bénéficie d'un congé dès qu'il a un enfant qui naît, que ce soit un fonctionnaire femme ou un fonctionnaire homme. Désormais, dans l'ancienne loi, il n'y avait pas de formation prévue, mais désormais, tout fonctionnaire qui débute sa carrière aura droit à des formations successives jusqu'à la fin de sa carrière. Nous avons aussi la prise en compte par l'État du contrôle de santé de tous les fonctionnaires qui doit se faire annuellement. Le bilan de santé des fonctionnaires, c'est une affaire que l'État a pris en compte.
Et vous n'êtes pas là en train de marcher sur les plates-bandes de la MUSEFCI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire?
Oui, mais tout ça, c'est chapeauté par l'État. La MUSEFCI, elle le fait de façon sectorielle, mais désormais, l'État même prend en charge la santé des fonctionnaires et l'affaire de l'État directement.
Monsieur le directeur régional, c'est qui le fonctionnaire et c'est qui l'employé, souvent appelé agent de l'État?
Bon, un fonctionnaire est d'abord un employé de l'État. Mais pour être fonctionnaire, il faut passer un concours. Dès lors que vous êtes admis au concours, vous recevez une formation. À l'issue de cette formation, vous êtes déclaré fonctionnaire et vous prenez fonction. Donc tout fonctionnaire, c'est quelqu'un qui émerge sur le budget de l'État. Il a un matricule et il est reconnu comme tel.
Mais on a ces agents au niveau même de la fonction publique qui ne sont pas des fonctionnaires, mais qui ont des rémunérations versées par l'État. Alors, quelle différence il y a entre ces derniers et les fonctionnaires?
Effectivement, il y a des agents qui ne sont pas fonctionnaires, qui émergent en fonction des besoins de l'administration. Ça peut être un besoin de secrétaire de façon ponctuelle, comme s'il n'y en a pas, l'administration peut autoriser d'en recruter. Et on peut avoir aussi des techniciens, quelqu'un qui a une technicité dont l'administration a besoin pour les besoins de la cause. Mais c'est pratique là que la fonction publique corrige en faisant la cartographie de ces différents services et à travers cette cartographie là où tous ceux qui travaillent dans les administrations, que ce soit fonctionnaires ou pas, seront recensés. On va estimer les besoins et voir comment on peut essayer de renouveler leur statut, ils peuvent passer le concours, on peut leur permettre des passerelles pour pouvoir entrer dans l'administration.
Et j'insiste sur la question parce qu'on a beaucoup d'agents qui possèdent de hauts diplômes, mais n'étant pas fonctionnaires, alors on ne peut pas faire leur promotion. Alors que préconise la nouvelle loi pour les personnes qui sont dans ce cas de figure?
Bon, il y a des ouvertures qui sont faites, mais ces ouvertures-là, même si ça n'est pas forcément dans la loi, mais il y a des décrets, des arrêtés qui peuvent permettre à ces personnes qui ont travaillé pendant un certain nombre d'années dans ces administrations-là de bénéficier d'une promotion en faisant d'eux des fonctionnaires. Ils peuvent déposer un dossier, ils peuvent passer le concours. Tout dépend du décret ou bien de l'arrêté qui sera signé dans ce sens-là. Mais de plus en plus, on les a intégrés. Ceux qui répondent aux critères, qui ont des diplômes, qui ont fait un certain nombre d'années, on les a intégrés.
Ma dernière préoccupation, il y a des agents depuis 20 ans qui sont recalés au grade 3 pour les uns et au grade 4 pour les autres. Alors, comment corriger cet aspect et quelle solution la nouvelle loi compte apporter à cet état de fait?
Oui, on l'a dit, hein, les grades A3, A4, bon, pour pouvoir en bénéficier, évidemment, il y a des concours qui sont lancés. Voilà, ceux qui sont en A4, directement, c'est sur étude de dossier. Mais il faut encore que le concours soit lancé. Si le concours est lancé, qui rentre dans les critères, il y a le nombre de places. Voilà, donc en fonction de tous ces critères-là qui sont définis, c'est comme ça qu'on choisit les gens pour faire les promotions.
Monsieur Blanc Alexis Cross, merci.
Merci à vous aussi.
Blain Alexis Cross, invité de la rédaction. Il est du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Il répondait aux questions de notre correspondant dans le Kabadougou, Bakary Touré là-bas. Et cet entretien met un terme à notre édition dont voici le rappel des titres. L'inspection générale d'État a présenté hier son rapport annuel d'activité 2022 où il fait mention de 225 missions réalisées par les organes de contrôle administratif. Ce rapport a été remis au vice-président de la République, Timoko Meliekone, qui représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara. 20% des 8000 petites et moyennes entreprises bénéficiaires d'accompagnement en 2024 obtiendront des financements, a annoncé le directeur du guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises, Yaya Ouattara, qu'on a écouté dans cette édition. Et puis dans l'actualité sur le continent, 10 jours avant la présidentielle au Sénégal, les deux opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye sont libres. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous pour une nouvelle édition à 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.